Deuxième partie. Illumine les tempêtes. Dalinar, Kaladin, Adolin. Chapitre 12. Unité. Mon vieil ami, j'espère que cette missive vous trouvera en bonne santé. Quoique j'imagine, puisque vous êtes désormais quasiment immortel, que votre santé est pour ainsi dire une garantie. Cette journée, annonça le roi Elokar, qui chevauchait sous un ciel dégagé, est parfaite pour tuer un dieu. N'êtes-vous pas d'accord ? Indubitablement, en majesté, répondit Sadeas avec douceur, promptitude et un sourire entendu. On pourrait dire que les dieux, en règle générale, devraient craindre la noblesse Aleti. Une grande partie d'entre nous, en tout cas. Adolin resserra les doigts sur ses rênes. Entendre parler le haut prince Sadeas avait le don de le mettre à cran. Est-ce que nous sommes obligés de chevaucher en première ligne ? Murmura Reynarin. J'ai envie d'écouter, répondit doucement Adolin. Son frère et lui chevauchaient vers l'avant de la colonne, près du roi et de ses hauts princes. Derrière eux s'étendait une grande procession, 1000 soldats portant le bleu des collines, des dizaines de serviteurs et même des femmes dans des palanquins, censés rédiger des comptes rendus de la chasse. Adolin leur jeta des regards à la dérobée, tandis qu'il tendait la main vers sa gourde. Il portait sa cuirasse d'éclat et devait donc prendre garde à ne pas écraser la gourde. Quand on portait cette armure, les muscles réagissaient avec une vitesse, une force et une dextérité accrues, et il fallait de la pratique pour l'utiliser correctement. Adolin se faisait toujours prendre par surprise de temps à autre, bien qu'il possède cette armure, héritée du côté maternel de sa famille, depuis son 16e anniversaire. Ce qui remontait désormais à 7 ans. Il se retourna et but une longue gorgée d'eau tiède. Sadeas chevauchait sur la gauche du roi et Dalinar, le père d'Adolin, dessinait une silhouette robuste sur sa droite. Le dernier haut prince de la chasse était Vama, qui n'était pas un porte-éclat. Le roi était resplendissant dans sa cuirasse d'éclat doré, mais la cuirasse, bien sûr, pouvait donner l'air majestueux à n'importe qui. Même Sadeas paraissait impressionnant lorsqu'il portait sa cuirasse rouge, bien que son visage bulbeux et son teint rougeau en amoindrissent l'effet. Sadeas et le roi faisaient étalage de leur cuirasse, et peut-être qu'Adolin aussi, en réalité. Il avait fait peindre la sienne en bleu et avait fait souder quelques ornements au casque et aux spalières pour donner une impression de danger supplémentaire. Comment pouvait-on ne pas fanfaronner lorsqu'on portait quelque chose d'aussi majestueux que la cuirasse d'éclat. Adolin but une nouvelle gorgée, écoutant le roi parler de son enthousiasme pour la chasse. Un seul porte-éclat de tout le cortège, un seul de l'ensemble des 10 armées même, n'utilisait ni peinture ni ornement sur sa cuirasse. Dalinar Kaladin, le père d'Adolin, préférait garder à son armure sa couleur naturelle gris-ardoise. Dalinar chevauchait aux côtés du roi, le visage grave. Il avait attaché son casque à sa selle, dévoilant un visage carré, coiffé de courts cheveux noirs, qui avait blanchi aux tempes. Peu de femmes avaient jamais qualifié Dalinar Kaladin de séduisant. Son nez n'avait pas la bonne forme, et ses traits étaient plus massifs que délicats. C'était le visage d'un guerrier. Il montait un étalon richadium noir et massif, l'un des plus grands chevaux qu'Adolin ait jamais vu. Et bien que Sadeas et le roi semblent majestueux dans leur armure, Dalinar parvenait curieusement à ressembler à un soldat. À ses yeux, la cuirasse n'était pas un ornement, c'était un outil. Il ne semblait jamais s'étonner de la force ou de la vitesse que lui prêtait l'armure. À croire que chez Dalinar Kaladin, le port de cette armure était son état naturel. C'était ne pas en porter qui semblait anormal. Peut-être était-ce l'une des raisons qui lui avait valu la réputation de l'un des plus grands guerriers et généraux ayant jamais vécu. Adeline se surprit à regretter passionnément que son père ne fasse pas plus d'efforts ces jours-ci pour mériter cette réputation. Il pense aux visions, songea Adeline, étudiant l'expression distante et le regard troublé de son père. Ça s'est encore produit la nuit dernière, dit doucement Adeline à Rénarine, pendant la tempête majeure.
Je sais, répondit Rénarine.
Sa voix était mesurée, maîtrisée. Il marquait toujours une pause avant de répondre à une question, comme s'il testait mentalement les mots. Adeline connaissait des femmes qui affirmaient que les manières de Rénarine leur donnaient l'impression qu'il les disséquait à l'aide de son esprit. Elle frissonnait en parlant de lui, bien qu'Adeline n'ait jamais rien trouvé de dérangeant chez son frère cadet. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, à ton avis ? Demanda Adeline tout bas, de sorte que seule Rénarine l'entende. Les crises de père.
Je n'en sais rien.
Rénarine, on ne peut pas continuer à les ignorer. Les soldats parlent entre eux. Les rumeurs se répandent à travers les 10 armées. Dalinar Colline devenait fou. Chaque fois qu'une tempête majeure survenait, il tombait à terre et se mettait à trembler, puis à divaguer en charabia. Souvent, il se relevait, ses yeux bleus hagards et lointains, et s'agitait en battant l'air de ses bras. Adeline devait le retenir pour l'empêcher de se blesser ou de blesser les autres.
« Il voit des choses, » dit Adeline. « Enfin, il le croit, en tout cas. »
Le grand-père d'Adeline avait souffert d'hallucinations. En vieillissant, il se croyait de retour à la guerre. Était-ce là ce qui arrivait à Dalinar ? Revivait-il des batailles de sa jeunesse, l'époque où il avait gagné sa renommée ? Ou était-ce cette terrible nuit qu'il revoyait encore et encore, celle où l'assassin en blanc avait tué son frère ? Et pourquoi parlait-il si souvent des chevaliers radieux juste après ces crises ? Tout ça dégoûtait Adeline. Dalinar était l'épine noire, un génie du champ de bataille, ainsi qu'une légende vivante. Ensemble, son frère et lui avaient réuni les hauts princes en guerre d'Aletkar après des siècles de conflits. Il avait vaincu d'innombrables adversaires lors de duels, avait remporté des dizaines de batailles. Le royaume tout entier comptait sur lui. Tout ça pour en arriver là. Que faisait-on en tant que fils quand le père qu'on aimait, l'homme le plus grand qui soit, commençait à perdre l'esprit ? Sa déesse parlait d'une victoire récente. Il avait gagné un nouveau cœur de gemme 2 jours plus tôt et le roi, semblait-il, n'en avait pas entendu parler. Adeline se crispa en l'écoutant fanfaronner.
« Nous devrions reculer, » dit Rénarine.
« Nous sommes de rang assez élevé pour être ici, » répondit Adeline.
« Je n'aime pas la façon dont tu te comportes en présence de sa déesse.
Nous devons garder cet homme à l'œil, Rénarine. » songea Adeline. Il sait que père s'affaiblit. Il va tenter de frapper.
Adeline s'obligea toutefois à sourire. Il s'efforçait d'être détendu et confiant pour Rénarine. En règle générale, ce n'était pas difficile. Il était ravi de passer toute sa vie à se battre en duel, à se prélasser et à courtiser une jolie fille de temps en temps. Récemment, la vie n'avait toutefois pas semblé vouloir le laisser profiter de ses plaisirs simples.
Modèle de courage récemment, sa déesse, disait le roi. Vous vous en êtes très bien sorti pour la capture de ces cœurs de gemmes. Soyez-en loués.
Je vous remercie, Majesté, même si la compétition devient quelque peu ennuyeuse dans la mesure où certaines personnes ne semblent pas motivées pour participer. J'imagine que même les meilleures armes finissent par lasser.
Dalinar, qui aurait peut-être autrefois réagi à cette provocation à peine voilée, ne répondit rien. Adeline serra les dents. Il était inadmissible que sa déesse lance des piques à son père dans son état actuel. Peut-être fallait-il qu'Adeline lance un défi à ce salopard pontifiant. On ne défiait pas les hauts princes en duel, ça ne se faisait pas, tout simplement, à moins d'être prêt à en faire toute une tempête. Mais peut-être l'était-il.
Peut-être. Adeline,
lui dit Rhaenarin sur un ton visant à le mettre en garde. Adeline regarda sur le côté. Il avait tendu la main comme pour faire apparaître sa lame. Il reprit plutôt ses rênes. « Allez aux foudres, » se dit-il. « Laissez mon père tranquille. »«
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la chasse ?» demanda Rhaenarin. Comme toujours, le plus jeune des collines chevauchait avec le dos bien droit et une posture parfaite, yeux cachés derrière ses lunettes, modèle de bienséance et de solennité.
« Tu n'es pas surexcité ?»«
Bah, » répondit Adeline. « Je ne trouve jamais les chasses aussi intéressantes que tout le monde le dit. Je me moque bien de savoir si la bête est très grosse. En fin de compte, ce n'est qu'une boucherie. » Le duel, en revanche, voilà qui était exaltant. La sensation de la lame d'éclat dans votre main, de faire face à quelqu'un de malin, de doué et de prudent. Homme contre homme, force contre force, esprit contre esprit. Chasser un animal idiot ne pouvait tout simplement pas rivaliser.
« Tu aurais peut-être dû inviter Janala, » dit Rhaenarin.
« Elle ne serait pas venue, » répondit Adeline. « Pas après. Enfin, tu sais. Ria s'est plainte très énergiquement hier. Il valait mieux se contenter de partir. »
« Tu aurais vraiment dû faire preuve de plus de discernement dans la façon dont tu l'as traité, » dit Rhaenarin d'un air désapprobateur.
Adeline marmonna une réponse neutre. Ce n'était pas sa faute à lui si la plupart de ses relations se détérioraient si rapidement. Enfin, techniquement, c'était bien sa faute cette fois-ci, mais pas en règle générale. Cette fois-ci était un cas isolé. Le roi se mit à se plaindre de quelque chose. Rhaenarin et Adeline s'étaient laissés dépasser par les autres, si bien qu'Adeline n'entendit pas ses paroles.
« Rapprochons-nous, » dit Adeline en pressant sa monture d'avancer.
Rhaenarin leva les yeux au ciel, mais le suivit.
« Unissez-les. »
Ces mots murmuraient dans l'esprit de Dalinar. Il ne parvenait pas à s'en débarrasser. Il le consumait tandis qu'il menait vaillant au trot à travers ce plateau des plaines brisées, jonché de rochers.
« Ne devrions-nous pas déjà y être ?» demanda le roi.
« Nous sommes encore à deux ou trois plateaux du terrain de chasse, Majesté, » répondit Dalinar, distrait. « Il nous faudra encore une heure, peut-être, en observant le protocole adéquat. Si nous disposions d'un meilleur point de vue, nous verrions sans doute le pavillon et... »«
Un meilleur point de vue? Est-ce que cette formation rocheuse là-bas ferait l'affaire ?»«
Sans doute, » répondit Dalinar en inspectant l'étendue rocheuse qui s'élevait à une tour. Nous pourrions envoyer des éclaireurs s'en assurer.
Des éclaireurs? Bah, j'ai besoin d'une course, mon oncle. Je vous parie 5 bromes que je peux atteindre ce sommet avant vous.
Sur ce, le roi s'éloigna au galop dans un fracas de sabots, laissant derrière lui un groupe stupéfait de palsiris, serviteurs et gardes.
Nom des foudres! S'écria Dalinar qui mit son cheval en mouvement d'un coup de pied.
Adeline, tu as le commandement! « Atteins le plateau suivant, au cas où. » Son fils, qui se trouvait un peu en retrait, hocha vivement la tête. Dalinar galopa à la suite du roi, silhouette en armure dorée et longue cape bleue. Les sabots martelaient la pierre, les formations rocheuses défilaient à toute allure. Devant, l'abrupte flèche rocheuse s'élevait du bord du plateau. Ces formations étaient courantes ici, dans les plaines brisées.
« Maudit soit ce garçon !»
Dalinar pensait toujours à Elokar comme à un enfant, bien que le roi soit dans sa 27e année. Mais il agissait parfois comme tel. Pourquoi ne pouvait-il pas prévenir davantage avant de se lancer dans ce genre d'acrobatie? Malgré tout, tandis que Dalinar chevauchait, il dut s'avouer que c'était bel et bien agréable de foncer librement, sans casque, visage au vent. Son pouls accéléra tandis qu'il rejoignait la course, et il pardonna ses débuts impétueux. Pour l'instant, Dalinar s'autorisait à oublier ses problèmes et les mots qui résonnaient dans sa tête. Le roi voulait une course? Eh bien, Dalinar allait la lui donner. Il dépassa le roi à toute allure. Les talons des Locar étaient racés, mais il ne pouvait pas rivaliser avec Vaillant, qui était un richadium de pure race, plus haut de 2 pots, mais beaucoup plus fort qu'un cheval ordinaire. Ces animaux choisissaient eux-mêmes leurs cavaliers.
et seule une douzaine d'hommes dans l'ensemble des camps de guerre avaient cette chance. Dalinar en faisait partie. Adoline aussi. En quelques secondes, Dalinar atteignit la base de la formation. Il se jeta au bas de la selle alors que Vaillant courait encore. Il heurta rudement le sol, mais la cuirasse d'éclat absorba l'impact, et la pierre crissa sous ses bottes métalliques tandis qu'il s'arrêtait en dérapant. Les hommes qui n'avaient jamais porté de cuirasse, surtout ceux qui étaient habitués à sa cousine inférieure, simplement faite de mailles et de plaques, ne pourraient jamais comprendre. La cuirasse d'éclat n'était pas qu'une simple armure. Elle était tellement plus que ça. Il courut vers la base de la formation rocheuse tandis qu'Elokar le rattrapait au galop. Dalinar sauta, propulsé à 2,50 m de haut grâce à la cuirasse, et agrippa une prise dans la pierre. Il se hissa avec effort tandis que la cuirasse lui prêtait la force de nombreux hommes. Le frisson du défi se mit à enfler en lui. Il n'était pas aussi puissant que le frisson du combat, mais c'était un digne substitut. Raclement de pierre en contrebas. Elokar avait lui aussi commencé à grimper. Dalinar ne baissa pas les yeux. Il les garda fixés sur la petite plateforme naturelle au sommet de la formation haute de 12 mètres. Il tâtonna de ses doigts recouverts d'acier et trouva une autre prise. Les gantelets recouvraient ses mains, mais l'armure ancienne transmettait la sensation à ses doigts, comme s'il portait des gants de cuir. Un raclement s'éleva sur sa droite, accompagné d'un juron à mi-voix. Elokar avait emprunté un chemin différent, espérant dépasser Dalinar, mais le roi avait atteint une section dépourvue de prises. Sa progression s'en trouvait retardée. La cuirasse d'éclat dorée du roi scintilla lorsqu'il jeta un coup d'œil à Dalinar. Elokar serra la mâchoire, leva les yeux, puis s'élança d'un bond puissant en direction d'un affleurement. Petit idiot, se dit Dalinar, tout en regardant le roi qui sembla rester un instant suspendu en l'air avant d'agripper la saillie rocheuse et de s'y balancer. Puis, le roi se hissa et continua à grimper. Dalinar s'activait à gestes furieux, la pierre crissait sous ses doigts métalliques et des éclats se dégageaient. Le vent agita sa cape. Avec un effort, il se hissa et parvint de justesse à dépasser le roi. Le sommet n'était plus qu'à quelques mètres. Le frisson chantait à ses oreilles. Il tendit la main vers le but, résolu à gagner. Il ne pouvait pas perdre. Il devait les unir. Il hésita, sans trop savoir pourquoi, et laissa son neveu prendre de l'avance. Elokar se hissa sur ses pieds au sommet de la formation rocheuse, puis éclata d'un rire triomphant. Il se tourna vers Dalinar, main tendue. « Bourrasque, mon oncle, quelle belle course vous avez menée! Vers la fin, j'ai bien cru que vous m'aviez battu. » Le triomphe et la joie qui éclairaient le visage d'Elokar firent naître un sourire sur les lèvres de Dalinar. Le jeune homme avait besoin de victoire ces jours-ci. Même les petites lui feraient du bien. Des sprènes de gloire, semblables à de minuscules globes de lumière dorée et translucide, se mirent à apparaître autour de lui, attiré par son sens de la réussite. Se bénissant pour son hésitation, Dalinar prit la main du roi et se laissa hisser. Il y avait tout juste assez de place pour deux au sommet de la tour naturelle. Inspirant profondément, Dalinar asséna une claque dans le dos du roi avec un cliquetis de métal contre le métal. C'était effectivement une belle compétition, Majesté, et vous l'avez brillamment menée. Le roi rayonnait. Sa cuirasse d'éclat luisait au soleil de midi. Il avait relevé sa visière, dévoilant des yeux jaune pâle, un nez fort et un visage soigneusement rasé, qui était presque trop séduisant avec ses lèvres pleines, son large front et son menton ferme. Gavilar aussi avait eu cette apparence, avant qu'il ne se retrouve avec le nez cassé et cette terrible cicatrice au menton. En contrebas, la garde Cobalt et plusieurs des serviteurs d'Elokar les rejoignaient à cheval, avec sa déesse parmi eux. Sa cuirasse luisait d'un éclat rouge, bien qu'il ne soit pas un porte-éclat en bonne et due forme. Il ne possédait que la cuirasse, pas la lame. Dalinar leva les yeux.
Depuis cette hauteur, il pouvait balayer du regard une large portion des plaines brisées, et il éprouva une étrange sensation de familiarité, comme s'il s'était déjà trouvé à ce point d'observation, baissant les yeux vers un paysage brisé. L'impression disparut en un clin d'œil.
« Là !» dit Elokar, pointant un doigt ganté d'or. « Je vois notre destination !»
Dalinar s'abrita les yeux et distingua un large pavillon de toile, trois plateaux plus loin, où flottait le drapeau du roi. De larges ponts permanents y menaient. Ils étaient relativement proches du côté alléti des plaines brisées, sur des plateaux que Dalinar lui-même gardait. Un démon des gouffres, adulte, y vivait, qu'il revenait à lui seul de chasser, et la richesse que la bête portait en son cœur n'appartenait qu'à lui.
« Vous aviez raison une fois de plus, mon oncle, » dit Elokar.
« J'essaie d'en prendre l'habitude.
Je ne peux pas vous le reprocher, j'imagine, même si je peux vous battre à la course une fois de temps en temps. »
Dalinar sourit. « Je me suis de nouveau senti comme un jeune homme qui courait après votre père pour remporter un défi ridicule. »
Les lèvres d'Elokar se pincèrent, et le spren de gloire disparut. Parler de Gavilar gâtait son humeur. Il avait le sentiment que les autres le comparaient défavorablement à l'ancien roi. Malheureusement, il avait souvent raison.
Dalinar changea rapidement de sujet. « Nous devions ressembler aux 10 fantasques à galoper comme ça. Je regrette vraiment que vous ne m'ayez pas prévenu plus à l'avance pour que je prépare votre garde d'honneur. C'est une zone de guerre, après tout. »
« Bah, vous vous inquiétez trop, mon oncle. Les Parchendi n'ont pas attaqué si près de notre côté des plaines depuis des années. »«
Eh bien, vous aussi, vous sembliez craindre pour votre sécurité il y a 2 nuits. »
Et Elokar poussa un soupir sonore. « Combien de fois faut-il que je vous l'explique, mon oncle? Je peux affronter des soldats ennemis avec ma lame en main. C'est ce qu'ils pourraient envoyer quand nous ne regardons pas, quand tout est noir et silencieux. » Dont vous devriez essayer de me protéger. »
Dalinar ne répondit pas. La nervosité d'Elokar, sa paranoïa même, concernant l'assassinat, était forte. Mais qui pouvait le lui reprocher, compte tenu de ce qui était arrivé à son père?
« Je suis désolé, mon frère, » songea-t-il, comme il le faisait chaque fois qu'il repensait à la nuit où Gavilar était mort, seul. Sans son frère pour le protéger.
Je me suis renseigné sur la question que vous m'avez soumise, dit Dalinar en chassant ses mauvais souvenirs.
Ah oui? Et qu'avez-vous découvert?
Pas grand-chose, je le crains. Il n'y avait aucune trace d'intrusion sur votre balcon, et aucun des serviteurs n'a signalé d'étranger dans la zone.
Mais il y avait bel et bien quelqu'un qui m'observait dans le noir ce soir-là.
« Si c'est le cas, Majesté, il n'est pas revenu et n'a laissé aucune trace. »
Elokar sembla mécontent, et un silence sévère s'installa entre eux. En bas, Adeline rencontrait des éclaireurs et préparait la traversée des troupes. Elokar avait protesté en voyant combien d'hommes Dalinar avait emmenés. La plupart d'entre eux ne seraient pas nécessaires pour la chasse. Ce seraient les porte-éclats, pas les soldats qui tueraient la bête. Mais Dalinar devait assurer la protection de son neveu. Les attaques par Shendi avaient perdu en hardiesse lors des années de combat. D'après les estimations des scribes Aleti, leurs effectifs étaient descendus à 3/4 des précédents, bien qu'il soit difficile d'en juger. Mais la présence du roi suffirait peut-être à les pousser à une attaque imprudente. Les vents soufflaient sur Dalinar et ramenèrent un bref instant cette vague familiarité éprouvée quelques minutes plus tôt. Debout, en haut d'un sommet, à regarder ce paysage désolé. La sensation d'une perspective affreuse et stupéfiante.
« C'est ça, » se dit-il. « Je me suis déjà tenu au sommet d'une formation rocheuse. C'est arrivé pendant l'une de ces visions, la toute première. Vous devez les unir. » Lui avait dit cette étrange voix retentissante. « Vous devez vous préparer. Faites de votre peuple une forteresse de puissance et de paix, un mur capable de résister au vent. Cessez de vous quereller et unissez-vous.
La tempête éternelle approche.
Majesté, s'entendit déclarer Dalinar, je... Il s'interrompit aussi vite qu'il avait commencé. Que pouvait-il dire? Qu'il avait eu des visions? Qu'il pensait, au mépris de toute doctrine et de tout sens commun, qu'elle provenait peut-être du Tout-Puissant? Qu'il estimait qu'il ferait mieux de se retirer du champ de bataille et de retourner en Aletkar? De la bêtise pure et simple.
« Mon oncle ?» demanda le roi. « Que voulez-vous ? » ?»«
Rien. Venez, retournons voir les autres. » Adeline enroula l'un de ses rênes en cuir de porc autour de son doigt, tandis qu'il attendait à dos de cheval la prochaine série de rapports des éclaireurs. Il avait réussi à chasser Sadeas et son père de ses pensées, et réfléchissait à la manière dont il expliquerait sa brouille avec Rhia, de façon à lui attirer un peu de compassion de la part de Janala. Elle aimait les poèmes épiques anciens. Pouvait-il décrire cette brouille en termes dramatiques? Il sourit, en songeant à ses somptueux cheveux noirs et à son sourire narquois. Elle avait fait preuve d'audace en le séduisant alors même que tout le monde savait qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. Ça aussi, il pouvait s'en servir. Peut-être Rhaenarin avait-il raison. Peut-être aurait-il dû l'inviter à prendre part à la chasse. La perspective de combattre un magnocoq aurait été bien plus intéressante aux yeux d'Adeline si une splendide personne aux longs cheveux le regardait.
« De nouveaux rapports d'éclaireurs viennent d'arriver, clarissime Adeline, » dit Tarilar qui le rejoignait en courant. Adeline reporta ses pensées sur les affaires en cours. Il s'était installé avec plusieurs membres de la garde Cobalt près de la base de la haute formation rocheuse où son père et le roi conversaient toujours. Tarilar, chef des éclaireurs, était un homme aux traits tirés, avec la poitrine et les bras robustes. Sous certains angles, sa tête paraissait relativement petite par rapport à son corps, au point qu'elle semblait avoir été défoncée.
« Poursuivez ?» dit Adeline.
« Les éclaireurs ont rencontré le maître de chasse et sont revenus. Aucun Parchendi n'a été vu sur les plateaux proches. Les compagnies 18 et 21 sont en position, mais il y a encore 8 compagnies à partir. » Adeline hocha la tête.
« Demandez à la compagnie 21 d'envoyer des cavaliers monter la garde depuis les plateaux 14 et 16. »
et 2 chacun sur les plateaux 6 et 8.
6 et 8 ? Derrière nous ?
Si je devais nous tendre une embuscade, répondit Adeline, je contournerais par là et barrerais la route pour nous empêcher de fuir.
Obéissez.
Tarilar lui adressa un salut.
Oui, clarissime.
Il s'empressa d'aller transmettre les ordres.
Tu crois vraiment que c'est nécessaire ?
Demanda Rhaenarin en rejoignant Adeline.
« Non. Mais père voudra que ce soit fait de toute manière. Tu le sais très bien. »
Il y eut un mouvement en hauteur. Adeline leva les yeux juste à temps pour voir le roi sauter de la formation rocheuse, sa cape flottant derrière lui tandis qu'il tombait d'une douzaine de mètres sur le sol rocheux. Leur père se tenait sur le rebord au-dessus d'eux, et Adeline l'imaginait jurer tout bas devant ce qu'il devait considérer comme une manœuvre casse-cou. La cuirasse d'éclat pouvait supporter une telle chute, mais la hauteur était suffisante pour que ce soit dangereux. Elokar atterrit avec un craquement sonore, soulevant des éclats de pierre ainsi qu'une grosse bouffée de fulgiflamme. Il parvint à rester debout. Le père d'Adeline revint par un trajet plus sûr, descendit jusqu'à un rebord plus bas avant de sauter.
Il semble prendre de plus en plus souvent le chemin le plus sûr ces temps-ci, songea distraitement Adeline. Et il semble souvent trouver des raisons de me donner des ordres.
Songeur, il mit son cheval au trot pour quitter l'ombre de la formation rocheuse. Il fallait qu'il obtienne le rapport de l'arrière-garde. Son père voudrait l'entendre. Son trajet lui fit dépasser un groupe de palziris de l'escorte de Sadeas. Le roi, Sadeas et Vama étaient accompagnés chacun d'un groupe de serviteurs, d'aides de camp et de flagorneurs. En les regardant chevaucher avec leurs soieries confortables, leurs vestes ouvertes et leurs palanquins ombragés, Adeline prit conscience de son armure massive et étouffante. La cuirasse d'éclat était formidable et vous prêtait une force inouïe, mais, sous un soleil brûlant, elle pouvait vous donner envie de porter quelque chose de moins serré. Mais, bien entendu, il n'aurait pas pu porter de vêtements ordinaires. Adeline devait être en uniforme, même pendant une chasse.
les codes de guerre Aléti l'ordonnaient. Peu importait que personne ne se soit conformé à ces codes depuis des siècles. Du moins, personne d'autre que Dalinar Colin, et par extension, ses fils. Adeline passa devant deux Palziris en train de se prélasser, Vartian et Lomar, deux des parasites les plus récents de sa déesse. Ils parlaient assez fort pour qu'Adeline les entende, sans doute volontairement.
« Encore à courir après le roi !» dit Vartian en secouant la tête. « Comme les hashdogs domestiques qui mordillent les talons de leur maître. »«
Quel dommage !» dit Lomar. « À quand remonte la dernière fois que Dalinar a remporté un cœur de gemme ? Il ne pourra en obtenir que si le roi le laisse s'en emparer sans compétition. » Adeline serra la mâchoire et poursuivit son chemin. L'interprétation que son père faisait des codes ne lui permettait pas de défier un homme en duel alors qu'il était en service ou qu'il avait le commandement. Ces restrictions inutiles l'irritaient. Mais Dalinar avait parlé en tant que commandant d'Adeline, ce qui ne lui laissait pas le loisir de protester. Il allait devoir trouver un moyen de provoquer ces deux idiots de Flagorneur en duel dans un autre contexte pour les remettre à leur place. Malheureusement, il ne pouvait pas défier en duel toute personne qui critiquait son père. Le plus gros problème était que leurs propos recelaient un fond de vérité. Les principautés étaient pareilles à des royaumes et restaient majoritairement autonomes, bien qu'elles aient accepté Gavilar comme roi. Elokar avait hérité du trône et Dalinar avait de droit reçu la principauté Colin. Cependant, la plupart des hauts princes ne respectaient l'autorité du roi que de manière symbolique, ce qui laissait Elokar sans terre qui soit spécifiquement la sienne. Il se comportait souvent comme un haut prince de la principauté Colin, s'intéressant de près à sa gestion au quotidien. En conséquence, alors que Dalinar aurait dû être un dirigeant autonome, il se pliait aux caprices d'Elokar et consacrait ses ressources à la protection de son neveu, ce qui le rendait faible aux yeux des autres, guère plus qu'un vulgaire garde du corps. À une époque, lorsque Dalinar était redouté, les hommes n'osaient pas murmurer au sujet de ces choses-là. Mais à présent, Dalinar participait de moins en moins aux attaques des plateaux, et ses forces prenaient du retard dans la capture de précieux cœurs de gemmes. Tandis que les autres se battaient et gagnaient, Dalinar et ses fils consacraient leur temps à l'administration bureaucratique. Adeline brûlait d'être au combat, de tuer des Parchendi. À quoi bon se conformer au code de guerre alors qu'il avait si rarement l'occasion d'aller en guerre ? C'est la faute de ses illusions. Dalinar n'était pas faible, et il n'était certainement pas lâche, quoi que puissent dire les gens. Simplement tourmenté. Comme les capitaines de l'arrière-garde ne s'étaient pas encore mis en rang, Adeline décida d'aller plutôt faire son rapport au roi. Il le rejoignit au trot et rencontra Sadeas qui faisait de même. De manière prévisible, Sadeas le regarda en fronçant les sourcils. Le haut prince détestait qu'Adeline possède une lame alors que lui-même n'en avait pas. Il en convoitait une depuis des années déjà. Adeline croisa le regard du haut prince en souriant.
Chaque fois que vous avez envie de me provoquer en duel pour ma lame, Sadeas, essayez un peu.
Adeline aurait donné cher pour affronter cette anguille dans l'arène de duel. Quand Dalinar et le roi approchèrent, Adeline s'empressa de parler avant que Sadeas puisse le faire.
Majesté, j'ai des rapports d'éclaireurs.
Le roi soupira.
Qu'ils ne nous apprendront rien, une fois de plus, j'imagine. Franchement, mon oncle, faut-il toujours faire des rapports sur les moindres petits détails militaires ?
Nous sommes en guerre, Majesté, répondit Dalinar.
Elokar soupira impatiemment.
Vous êtes un homme étrange, cousin, songea Adeline.
Elokar voyait des meurtriers dans chaque ombre, mais ignorait souvent la menace Parchendi. Il s'élançait au galop comme il l'avait fait aujourd'hui, sans garde d'honneur, et sautait du haut d'une formation rocheuse de 12 mètres. Mais il veillait des nuits entières, terrifié à l'idée qu'on l'assassine.
« Donne-moi ton rapport, mon fils, » dit Dalinar.
Adeline hésita, car il se sentait maintenant idiot d'avoir si peu de choses à dire.
« Les éclaireurs n'ont vu aucune trace des Parchendi. Ils se sont entretenus avec le maître de chasse, »
deux compagnies ont capturé le plateau suivant et les huit autres auront besoin d'un peu de temps pour traverser. Mais nous approchons.
Oui, nous avons vu d'en haut, dit Elokar. Peut-être que quelques-uns d'entre nous pourraient partir en éclaireur.
Majesté, répondit Dalinar, la présence des troupes que nous avons amenées deviendrait quelque peu inutile si vous les laissiez en arrière. Elokar leva les yeux au ciel. Dalinar ne céda pas, et son expression resta aussi immobile que les rochers qui les entouraient. Le voir ainsi, ferme, inflexible face à un défi, fit sourire Adoline de fierté. Pourquoi ne pouvait-il pas être tout le temps ainsi? Pourquoi reculait-il si souvent face aux insultes ou aux défis?
Très bien, dit le roi. Nous allons faire une pause et attendre pendant que l'armée traverse.
Les serviteurs du roi réagirent aussitôt. Les hommes mirent pied à terre, les femmes demandèrent aux porteurs de reposer leurs palanquins. Adoline s'en alla récupérer ce rapport de l'arrière-garde. Le temps qu'ils reviennent, Elokar était quasiment en train de siéger au milieu de sa cour. Ses serviteurs avaient installé un petit auvent pour l'abriter du soleil, et d'autres lui servaient du vin, rafraîchi grâce à l'un de ses nouveaux fabriaux capables de refroidir les choses. Adoline retira son casque et s'épongea le front à l'aide de son tapis de sel, regrettant à nouveau de ne pouvoir se joindre aux autres et boire un peu de vin. Au lieu de quoi, il mit pied à terre et s'en alla chercher son père. Dalinar se tenait à l'extérieur de l'auvent, ses mains gantées jointes derrière son dos, tournées vers l'est, vers l'origine, l'endroit invisible et lointain où naissaient les tempêtes majeures. Rhaenarin se tenait debout à ses côtés, regardant lui aussi au loin, comme s'il cherchait à déterminer ce que son père voyait de si intéressant. Adoline posa la main sur l'épaule de son frère, et Rhaenarin lui sourit. Adoline savait que son frère, qui avait à présent 19 ans, ne se sentait pas à sa place. Bien qu'il porte une épée au côté, il savait à peine s'en servir. En raison de ses crises de faiblesse, il lui était difficile de passer un temps raisonnable à s'entraîner. « Père, dit Adoline, peut-être que le roi avait raison. Peut-être que nous aurions dû avancer rapidement. Je préférerais que toute cette chasse soit terminée. » Dalinar le regarda. « Quand j'avais ton âge, j'attendais impatiemment une chasse comme celle-ci. Abattre un magnocoque était le plus grand moment de l'année pour un jeune homme. « Ça recommence, » songea Adoline. « Pourquoi tout le monde semblait-il tellement offensé que les chasses ne l'enthousiasment pas ?»« Ce n'est qu'un chul géant, père. Ces chul géants grandissent jusqu'à une hauteur de 15 mètres et sont capables d'écraser même un homme vêtu de cuirasse d'éclat. » « Oui, dit Adoline, et nous allons donc passer des heures à l'appâter tout en cuisant sous un soleil brûlant. S'il décide de se montrer, nous allons le cribler de flèches, et ne nous approcher que lorsqu'il sera quasiment trop faible pour résister, et le tailler en pièces à l'aide de nos lames d'éclat. Très honorable. »«
Ce n'est pas un duel, répondit Dalinar. C'est une chasse. Une grande tradition. »
Adoline le regarda en haussant les sourcils. « Eh oui, » ajouta Dalinar, « ça peut être fastidieux. Mais le roi s'est montré insistant. »«
Tu es simplement en train de ressasser tes problèmes avec Rhia, Adoline, » dit Rhaenarin. « Tu étais impatient la semaine dernière. Tu aurais vraiment dû inviter Janala. »«
Elle déteste la chasse. Elle trouve ça barbare. »
Dalinar fronça les sourcils.
« Janala ? Qui est Janala ?»
« La fille du clarissime Lustov, » répondit Adoline.
« Et tu la fréquentes ?»«
Pas encore, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. » »«
Qu'est-il arrivé à cette autre fille, la petite, celle qui aimait porter des rubans argentés dans les cheveux ?»«
Dili ?» demanda Adoline.
« Père, j'ai cessé de la voir il y a plus de 2 mois. »«
Ah bon ?»«
Oui. »
Dalinar se frotta le menton.
« Il y en a eu 2 entre elle et Janala, père, » commenta Adoline.
« Il faut vraiment que vous fassiez plus attention. »
« Le Tout-Puissant ait pitié de celui qui cherche à suivre en détail tes relations compliquées, mon fils. »«
La dernière, c'était Rhia, » dit Rhaenarin.
Dalinar fronça les sourcils.
« Et vous avez
eu quelques problèmes hier, dit Adeline. Il toussa, résolu à changer de sujet. Enfin bref, vous ne trouvez pas curieux que le roi insiste pour venir lui-même chasser le démon des gouffres ?
Pas particulièrement. Ce n'est pas si souvent qu'un spécimen de cette taille s'aventure ici, et le roi a rarement l'occasion de participer aux attaques de plateau. C'est une manière pour lui de se battre.
Mais il est tellement paranoïaque. Pourquoi est-ce qu'il veut maintenant partir en chasse, s'exposer lui-même dans les plaines ?
Dalinar se tourna vers l'auvent du roi. Je sais qu'il semble étrange, mon fils, mais le roi est un homme plus complexe que beaucoup ne veulent bien le croire. Il craint que ses sujets ne le voient comme un lâche à cause de sa peur des assassins, et il trouve ainsi des façons de prouver son courage. Des façons idiotes, parfois. Cependant, il n'est pas le premier homme que j'ai connu qui affronte la bataille sans peur, mais que l'idée de couteau dans les ombres fait trembler de terreur. La bravade est la marque de l'insécurité. Le roi apprend à gouverner. Il a besoin de cette chasse. Il a besoin de prouver à lui-même ainsi qu'aux autres qu'il est toujours fort et qu'il mérite de commander un royaume en guerre. C'est pour cette raison que je l'ai encouragé. Une chasse réussie, dans des circonstances maîtrisées, pourrait renforcer sa confiance et sa réputation. Adeline referma lentement la bouche, tandis que les mots de son père venaient à bout de ses plaintes. C'était étrange de voir les actions du roi devenir si logiques, expliquées ainsi. Adeline leva les yeux vers son père.
« Comment les autres peuvent-ils murmurer qu'il est lâche ? Ne voit-il pas sa sagesse ?»«
Oui, » dit Dalinar, dont le regard se fit lointain. « Ton cousin est un homme meilleur que bien des gens ne le croient, et un roi plus fort. Du moins, il pourrait l'être. Il faut simplement que je trouve un moyen de le persuader de quitter les plaines brisées. »
Adeline sursauta. « Quoi ?»
« Je ne l'ai pas compris tout de suite, » poursuivit Dalinar. « Les unir. Je suis censé les unir. Mais ne sont-ils pas déjà unis ? Nous nous battons ensemble ici dans les plaines brisées. Nous avons un ennemi commun en la personne des Parchendi. Je commence à comprendre que nous ne sommes unis que par le nom. Les hauts princes servent Elokar en apparence, mais cette guerre, ce siège, est un jeu pour eux. Une compétition qui les oppose entre eux. Nous ne pouvons pas les unir ici. Nous devons regagner Aletkar et stabiliser notre patrie. Apprendre à fonctionner ensemble en tant que nation unique. Les plaines brisées nous divisent. Les autres s'inquiètent trop de gagner fortune et prestige.
La fortune et le prestige font partie de la nature des Aleti, père, s'exclama Adeline. Était-il vraiment en train d'entendre ce discours ? Et le pacte de vengeance ? Les hauts princes ont juré de châtier les Parchendi.
Et nous les avons châtiés. Dalinar se tourna vers Adeline. Je sais que ça paraît terrible à entendre, mon fils, mais certaines choses sont plus importantes que la vengeance. J'aimais Gavilar. Il me manque affreusement. Et je hais les Parchendi pour ce qu'ils ont fait. Mais l'œuvre de toute sa vie consistait à unir Aletkar, et la damnation m'emportera avant que je ne le laisse se disloquer.
Père, dit Adeline, consternée, s'il y a ici quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est notre absence d'effort. Vous pensez que les hauts princes jouent à des jeux ? Eh bien, montrons-leur comment les choses doivent être faites. Au lieu de parler de nous retirer, nous devrions parler d'avancer, de frapper les Parchendi au lieu de les assiéger.
Peut-être.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas parler de nous retirer, dit Adeline. Les hommes affirmaient déjà que Dalinar perdait son courage. Que diraient-ils s'ils entendaient ces propos ?
Vous n'avez pas abordé ce sujet avec le roi, n'est-ce pas ?
Pas encore. Je n'ai pas trouvé la bonne manière de le faire. S'il vous plaît. « Ne lui en parlez pas. »«
Nous verrons. »
Dalinar se retourna vers les plaines brisées, le regard de nouveau distant.
« Père, tu m'as fait entendre tes arguments, mon fils, et j'y ai répondu. N'insiste pas. As-tu obtenu le rapport de l'arrière-garde ?
Oui.
Et celui de l'avant-garde ?
Je viens tout juste de passer les voir et... » Il laissa sa phrase en suspens. Bourrasque. Il s'était déjà écoulé assez de temps pour qu'il soit nécessaire de faire avancer le groupe du roi. Les derniers soldats ne pourraient pas quitter ce plateau avant que le roi ne soit en sécurité de l'autre côté. Adeline soupira et s'en alla chercher le rapport. Bientôt, ils eurent tous traversé le gouffre et se dirigeaient vers le plateau suivant. Rénarine rejoignit Adeline au trot et voulut engager la conversation, mais Adeline ne lui fit que des réponses sans enthousiasme. Il commençait à éprouver un curieux sentiment d'envie. La plupart des hommes les plus âgés de l'armée, même ceux qui n'avaient que quelques années de plus que lui, s'étaient battus aux côtés de son père lors des jours glorieux. Adeline se surprit à jalouser tous ces hommes qui avaient connu son père et l'avaient vu se battre avant qu'il ne devienne à ce point absorbé par les codes. Dalinar s'était mise à changer à la mort de son frère. Ce jour terrible où tout avait commencé a mal tourné. La perte de Gavilar avait failli terrasser Dalinar, et Adeline ne pardonnerait jamais au Parchendi d'avoir infligé une telle douleur à son père. Jamais. Les hommes se battaient dans les plaines pour diverses raisons, mais c'était pour celle-là qu'Adeline était venue. S'il battait les Parchendi, peut-être son père redeviendrait-il l'homme qu'il avait été. Peut-être les illusions spectrales qui le hantaient disparaîtraient-elles. Devant lui, Dalinar s'entretenait à mi-voix avec Sadeas. Tous deux avaient la mine songeuse. Ils se supportaient à peine, bien qu'ils aient autrefois été amis. Encore une chose qui avait changé la nuit de la mort de Gavilar. Que s'était-il passé entre eux? Le jour s'écoulait, et ils finirent par atteindre le site de la chasse, deux plateaux conjoints, un où l'on attirerait la créature pour l'attaquer, un autre situé à une distance prudente pour les spectateurs. Comme la plupart des autres, ces plateaux possédaient une surface inégale habitée par des plantes robustes adaptées à l'exposition régulière aux tempêtes. Les saillies rocheuses, les dépressions et le terrain glissant y rendaient les combats traîtres. Adeline rejoignit son père, qui attendait près du dernier point tandis que le roi atteignait le plateau des spectateurs, suivi par une compagnie de soldats. Les serviteurs viendraient ensuite.
« Tu es doué pour le commandement, mon fils, » dit Dalinar en saluant d'un signe de tête un groupe de soldats de passage qui le lui rendirent.
« Ce sont de bons soldats, père. Ils ont à peine besoin qu'on leur commande lors du trajet d'un plateau à l'autre. »«
Oui, » répondit Dalinar, « mais tu as besoin d'expérience de commandement, et eux de te voir comme un commandant. »
Rénarine les rejoignit au trot. Sans doute était-il temps de traverser vers le plateau des spectateurs. Dalinar fit signe à ses fils de passer les premiers. Adeline se détourna pour partir, mais hésita lorsqu'il remarqua quelque chose derrière eux sur le plateau. Un cavalier qui avançait très vite pour rattraper le groupe de chasseurs provenant de la direction des camps de guerre. « Père !» dit Adeline en le désignant. Dalinar se retourna aussitôt et suivit son geste. Cependant, Adeline reconnut bientôt le nouvel arrivant. Ce n'était pas un messager comme il l'avait cru. « Malice !» s'exclama Adeline en lui faisant signe. Le nouvel arrivant les rejoignit au trot. Grand et mince, le malicieux du roi montait avec aisance un ongre noir. Il portait un manteau noir à mi-donné et un pantalon noir assorti à ses cheveux d'une teinte d'onyx sombre. Bien qu'il porte une épée longue et fine à la taille, il ne l'avait jamais tirée, pour autant qu'Adeline le sache. Elle était essentiellement symbolique, plus proche du fleuret de duel que de la lame militaire. Malice les salua d'un signe de tête en approchant, affichant l'un de ses sourires enthousiastes. Bien qu'il ait les yeux bleus, ce n'était pas réellement un pâle iris, pas plus qu'il n'était un sombre iris. Il était, eh bien, le malicieux du roi, une catégorie en soi.
« Ah, jeune prince Adeline !» s'exclama Malice. « Vous avez donc réussi à vous soustraire assez longtemps aux jeunes femmes du camp pour rejoindre la chasse. J'en suis impressionné. »
Adeline gloussa mal à l'aise. « Eh bien, c'est un sujet de discussion fréquent ces derniers temps. » Malice haussa un sourcil. Adeline soupira. Malice la prendrait de toute manière. Il était quasiment impossible de lui cacher quoi que ce soit. « J'ai pris rendez-vous pour le déjeuner avec une femme hier, mais je...
Eh bien, j'en voyais une autre, qui est d'un naturel jaloux, si bien qu'aucune des deux ne veut plus me parler à présent.
C'est pour moi une source de stupéfaction constante que vous puissiez vous fourrer dans de tels pétrins, Adeline. Chacun est plus passionnant que le précédent.
Oui, passionnant, c'est exactement l'effet que ça me fait. Malice éclata d'un nouveau rire, tout en maintenant une certaine dignité dans sa posture. Le malicieux n'était pas un fou du roi idiot comme l'on en trouvait dans d'autres royaumes. C'était une épée, un outil que le roi conservait. Insulter les autres était indigne du roi, si bien que, tout comme d'autres portaient des gants pour manipuler quelque chose de sale, le roi conservait un malicieux pour ne pas devoir s'abaisser au niveau de la grossièreté ou de l'insulte. Ce nouveau malicieux était parmi eux depuis plusieurs mois, et il y avait en lui quelque chose de différent. Il semblait savoir des choses qu'il n'aurait pas dû, des choses importantes, utiles.
Malice salua Dalinar d'un signe de tête.
« Milord ?»«
Malice, » répondit Dalinar d'une voix guindée.
« Et le jeune prince Rhaenarine ?»
Ce dernier garda les yeux baissés.
« Pas de salut pour moi, Rhaenarine ?»
demanda Malice, amusé. Rhaenarine ne répondit pas.
Il croit que vous allez vous moquer de lui s'il vous parle, Malice, dit Adeline. Ce matin, il m'a dit qu'il était résolu à ne pas prononcer un mot en votre présence.
Merveilleux !
S'exclama Malice.
Dans ce cas, je peux dire tout ce que je souhaite et il ne protestera pas.
Rhaenarine hésita.
Malice se pencha vers Adeline. Vous ai-je parlé de la nuit que nous avons passée il y a 2 jours, le prince Rhaenarine et moi, alors que nous marchions dans les rues du camp de guerre? Nous sommes tombés sur ces 2 sœurs, voyez-vous, avec les yeux bleus, et c'est un mensonge,
dit Rhaenarine en rougissant.
Très bien, répondit Malice sans se laisser démonter. Je vous confesse qu'il y avait 3 sœurs en réalité, mais le prince Rhaenarine, de manière fort injuste, s'est retrouvé avec 2 d'entre elles, et je n'ai pas souhaité amoindrir ma réputation en...
Malice, l'interrompit Dalinar d'une voix sévère. L'homme vêtu de noir le regarda. Peut-être devriez-vous réserver vos moqueries à ceux qui les méritent.
Clarissime Dalinar, je crois que c'est précisément ce que j'étais en train de faire.
L'expression de Dalinar s'endurcit encore davantage. Il n'avait jamais aimé Malice, et s'en prendre à Rhaenarine était un bon moyen de s'attirer sa colère. Adeline le comprenait, mais Malice se montrait presque toujours bon enfant avec Rhaenarine. Malice s'éloigna, passant devant Dalinar, ce faisant. Adeline entendit à peine ce qui fut dit lorsque Malice se pencha pour murmurer quelque chose.
Ceux qui méritent mes moqueries sont ceux qui peuvent en tirer des bienfaits, clarissime Dalinar. Celui-ci est bien moins fragile que vous ne voulez le croire.
Avec un clin d'œil, il fit faire 2 demi-tours à son cheval pour aller traverser le pont.
Bourrasque, que cet homme me plaît, commenta Adeline. Le meilleur malicieux que nous ayons eu depuis une éternité.
Je le trouve perturbant, répondit doucement Rhaenarine.
C'est la moitié du plaisir.
Dalinar ne dit rien. Tous 3 traversèrent le pont en passant devant Malice, qui s'était arrêté pour tourmenter un groupe d'officiers, des pâles iris de rang assez bas pour avoir besoin de servir dans l'armée et de gagner un salaire. Plusieurs d'entre eux éclatèrent de rire tandis que Malice s'amusait aux dépens d'un autre. Tous 3 rejoignirent le roi, et le maître de chasse du jour s'approcha alors d'eux. Bashin était un homme de petite taille à l'impressionnante bedaine. Il portait des habits solides avec un manteau de cuir et un chapeau à large bord. C'était un sombre iris, du premier nan, le rang le plus élevé et le plus prestigieux qu'un sombre iris puisse atteindre, qui le rendait même digne d'épouser quelqu'un d'une famille pâle iris. Bashin s'inclina devant le roi.
« Majesté, vous arrivez au moment idéal. Nous venons de lancer l'appât. »
« Excellent !» répondit Elokar en mettant pied à terre. Adeline et Dalinar l'imitèrent dans un cliquetis étouffé de cuirasses d'éclat, et Dalinar détacha son casque de la selle.
« Combien de temps est-ce que ça prendra ?»«
2 ou 3 heures, probablement, » répondit Bashin en s'emparant des rênes du cheval du roi, tandis que des palefreniers prenaient les 2 richadiums. « Nous sommes installés là-bas. »
Bashin désigna le plateau de chasse, le plus petit plateau où le combat allait avoir lieu, loin des serviteurs et de la masse des soldats.
un groupe de chasseurs menait un chul au pas lourd tout autour du plateau, tirant une corde passée par-dessus le bord de la pique. Cette corde guiderait l'appât. « Nous utilisons des carcasses de porc, » expliqua Bachine, « et nous avons versé du sang de porc par-dessus le bord. Des patrouilles ont vu le démon des gouffres une bonne douzaine de fois. Son nid est forcément tout proche. Il ne vient pas ici pour devenir une chrysalide. Il est trop gros pour ça, et il se trouve dans cette zone depuis trop longtemps. Ça devrait donc être une belle chasse. Lorsqu'il arrivera, nous lâcherons un groupe de chiens sauvages pour détourner son attention, et vous pourrez commencer à l'affaiblir avec des flèches. »
Ils avaient apporté des arcs majeurs, de grands arcs d'acier à la corde épaisse, supportant un poids de tirage si élevé que seul un porte-éclat pouvait s'en servir pour tirer des flèches grosses comme trois doigts. C'étaient des créations récentes, conçues par les ingénieurs Aletti grâce à l'usage de la science fabriale, et chacune nécessitait une petite gemme infusée pour que l'on puisse exercer l'attraction nécessaire sans voiler le métal. Navani, la tante d'Adoline, veuve du roi Gavilar, mère d'Elokar et de sa sœur Jasna, avait mené les recherches visant à développer ces arcs.
Quel dommage qu'elle soit partie, songea distraitement Adoline. Navani était une femme intéressante. On ne s'ennuyait jamais en sa présence. Certains s'étaient mis à appeler ses armes arcs d'éclat, mais Adoline n'aimait pas le terme. Les lames et cuirasses d'éclat était quelque chose de spécial, des reliques d'une autre époque, où les radieux arpentaient Rochard. Rien de ce qu'accomplissait la science fabriale ne pouvait ne serait-ce qu'en approcher.
Bachine conduisit le roi et ses hauts princes vers un pavillon au cœur du plateau des spectateurs. Adoline rejoignit son père dans l'intention de lui fournir un compte-rendu sur la traversée. La moitié des soldats environ étaient en place. Mais un grand nombre de serviteurs traversaient toujours le large pont permanent vers le plateau des spectateurs. La bannière du roi claquait au-dessus du pavillon, et on avait installé une petite table de rafraîchissement. Un soldat situé à l'arrière était en train d'installer un râtelier pour les quatre arcs majeurs. Ils étaient élégants et semblaient dangereux, et près d'eux se trouvaient quatre carquois contenant d'épaisses flèches noires.
« Je crois que vous aurez une belle journée pour la chasse, » dit Bachine à Dalinar. « À en juger par les comptes rendus, la bête est énorme, plus grosse que toutes celles que vous avez jamais tuées, Clarissime. »
« Gavilar a toujours voulu en tuer une, » commenta Dalinar avec nostalgie. « Il adorait la chasse au maniocoque, mais n'a jamais vaincu de démon des gouffres. C'est curieux que j'en ai désormais tué tellement. » Le chul tirant la passe se mit à bêler au loin.
« Pour celui-ci, Clarissime, vous devez viser les pattes, » leur expliqua Bachine.
Les conseils précédant la chasse étaient l'une des responsabilités de Bachine, qu'il prenait très au sérieux.
« Les démons des gouffres, eh bien, vous avez l'habitude de les attaquer dans leur chrysalide. N'oubliez pas à quel point ils sont agressifs quand ils ne sont pas en train de devenir chrysalide. Pour une bête de cette taille, détourner son attention, puis approcher par... » Il s'interrompit et poussa un grognement avant de jurer tout bas. « Les bourrasques emportent cet animal. Je vous jure que l'homme qui l'adressait devait être complètement crétin. »
Il regardait en direction du plateau suivant. Adoline suivit son regard. Le chul aux allures de crabe qui traînait l'appât s'éloignait du gouffre d'un pas lent et pesant mais résolu. Ses dresseurs lui couraient après en hurlant.
« Je suis désolé, Clarissime, » dit Bachine. « Il a passé la journée à faire ça. »
Le chul bêla d'une voix râpeuse. Adoline éprouva une impression d'anomalie.
Nous pouvons demander qu'on nous en envoie un autre, dit Elokar. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps de.
Bachine, demanda Dalinar d'une voix soudain alarmée. Ne devrait-il pas y avoir un appât à l'autre bout de la corde de cet animal? Le maître de chasse se figea. La corde que traînait le chul était effilochée à son extrémité. Quelque chose de sombre, d'une masse tellement énorme qu'elle vous engourdissait l'esprit, surgit du gouffre sur d'épaisses pattes chitineuses. Elle grimpa sur le plateau. Pas le petit où la chasse était censée se dérouler, mais celui des spectateurs, où se tenaient Dalinar et Adoline. Le plateau rempli de serviteurs, de convives non armés, de femmes scribes et de soldats non préparés.
« Ah, damnation !» s'exclama Bachine.